Eh bien, chers frères, vous pouvez vous asseoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers messieurs les abbés, et bien chers frères, parmi nos cinq sens, il en est un qui est probablement le plus indispensable à la survie de l'être humain. Il nous permet de rentrer en contact avec le réel qui nous entoure et ainsi de manifester soit un attachement ou au contraire une répulsion. Il s'agit du toucher. Ce sens est comme un système d'alarme naturel qui indique à notre cerveau le contact avec du sûr ou au contraire du dangereux. Le toucher est cette réalité de notre sensibilité qui nous permet de nous unir à quelqu'un. C'est le sens le plus fort de la communion avec une personne. Lorsqu'on salue quelqu'un, on n'utilise pas son odorat, on n'utilise pas son ouïe, on n'utilise pas son goût, mais bien le toucher. Lorsqu'on veut signifier une relation de paix, d'union, de complicité, même d'amour, on utilise le sens du toucher. Pensons à deux mains qui se lient profondément l'une à l'autre, ou à une embrassade ou une accolade. Mais le toucher peut aussi devenir un peu plus viril ou vigoureux, voire même violent, pour alors exprimer son agacement ou sa colère, parfois nécessaire, notamment dans l'éducation, même si cela n'est plus permis par la loi. Quand on ne peut plus parler à un mourant, on lui tient la main, comme si ce geste était l'ultime preuve fondamentale de la présence de l'autre. Le sens du toucher est donc ce sens essentiel de notre rapport au monde et à l'autre. On ne peut pas toucher virtuellement. Remarquons que le Christ utilise très souvent le sens du toucher, notamment pour faire des miracles et guérir des malades. Et notre évangile, aujourd'hui, en ce 23e dimanche, après la Pentecôte, notre évangile est très tactile. Le chef de la synagogue demande à Jésus de venir imposer la main sur sa fille, car elle est morte. Le Christ y va, et sur sa route, une autre femme touche son vêtement et se trouve guérie. Et enfin, pour guérir cette jeune fille, la fille de Jaïr, eh bien le Christ lui prend la main. Que de toucher dans cet épisode, que de preuves d'amour envers les hommes de la part du Christ, que de gestes d'union avec nos pauvres natures blessées. La liturgie et le rituel de nombreux sacrements utilisent souvent ce sens du toucher pour exprimer ce contact de l'invisible avec le visible, de la grâce avec les hommes. L'imposition des mains du ministre, représentant le Christ, se retrouve dès le premier sacrement que nous recevons dans le baptême, lorsqu'à deux reprises, le prêtre touche la tête de l'enfant pour marquer la prise de possession de l'Église, la prise de possession par l'Église et donc par le Christ de ce nouveau-né que les parents lui présentent. Également dans le sacrement d'extrême-onction, le prêtre impose la main sur la tête comme pour manifester par ce toucher que le Christ accompagne le mourant ou le malade vers sa dernière demeure. L'Église, telle une bonne mère, prend soin de ses enfants dès le commencement et jusqu'à l'achèvement de sa vie terrestre. Le sacrement de l'ordre aussi est conféré par l'imposition des mains de l'évêque. Le diacre devient alors prêtre, configuré au Christ, attaché à lui d'une manière particulière. Et également dans le sacrement de confession, le prêtre étend sa main en récitant la formule d'absolution sur le pénitent, et ceci est un magnifique reliquat de l'imposition des mains qui se faisait autrefois dans ce sacrement sur la tête du pénitent. Cette imposition des mains, que l'on retrouve donc dans de nombreux sacrements, n'est donc pas anodine. Et si l'Église a voulu faire transparaître ce geste d'une manière bien visible et récurrente, eh bien c'est pour manifester la transmission et en même temps l'union dans les sacrements de Dieu. Dans les sacrements, cette union de Dieu avec l'homme. En effet, le sacrement est un signe d'une réalité sacrée en tant que sanctifiant les hommes. Tous les sacrements de la loi nouvelle, les sept sacrements, ont été institués par le Christ, ont tous été institués par le Christ et sont dans le genre du signe. Mais en plus de signifier, ils produisent. Le sacrement produit ce qu'il signifie, à savoir la grâce, ce don de Dieu et cette participation à sa nature divine. Et par là, Dieu guérit, Dieu nourrit et Dieu fait vivre ou revivre ceux qui étaient morts. Par le contact de la grâce, Dieu aussi se laisse toucher par l'homme. Dieu s'abaisse pour s'unir à ceux qui sont imparfaits et pécheurs. Dieu accepte de rentrer en contact avec l'homme souillé. Comment ne pas être alors touché en esprit et en vérité par un si beau mouvement ? Revenons à notre évangile et observons que le chef de la synagogue demande au Christ une imposition des mains. Or le Christ, en arrivant devant cette jeune fille morte, va la guérir par sa toute-puissance, mais le geste physique qu'il accomplit, c'est de lui prendre la main pour lui rendre la vie. Il n'obéit donc pas à la demande du chef, mais exécute un autre geste, le geste que lui-même a déterminé dans sa toute-puissance divine. De là, nous pouvons tirer la leçon suivante. La liturgie, c'est l'ensemble de l'œuvre publique, cultuelle, et l'Église, dans sa grande sagesse, a codifié les gestes, les paroles, les actions, les objets même, et même la musique. Tout cela a été codifié par l'Église, tout ce que l'on utilise dans le culte, afin de permettre aux hommes de rendre ce culte dû à Dieu, non pas selon nos goûts ou nos préférences, mais selon l'ordre divinement établi. L'homme doit donc se soumettre à l'objectivité de la foi et du culte divin. Et pour le dire autrement, tel ou tel prêtre n'est donc pas apte à décider de modifier à sa guise la liturgie ou l'adapter selon ses critères subjectifs. L'Église enseigne à travers des rubriques et des directives claires la manière de célébrer le culte de Dieu. Ce n'est donc pas aux prêtres, encore moins aux laïcs, de trafiquer la liturgie. Nous sommes dépositaires d'un trésor que nous devons transmettre intact. La liturgie est objective, donc abandonnons nos critiques ou jugements très personnels, souvent, selon nos goûts et nos envies en matière liturgique et aussi musicale. Les papes ont été très clairs dans l'histoire de l'Église à ce sujet. Le Christ a réalisé un geste précis pour guérir cette jeune fille. Il nous indique par là de ne pas inventer ni transformer, mais reproduire avec foi et docilité ce que le magistère de l'Église demande. C'est ainsi qu'à travers ses gestes et paroles, l'homme accepte de rentrer en contact du divin, de toucher l'invisible afin de se laisser remodeler par l'invisible, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.